Panorama Économie.
Bonjour à toutes et à tous au menu de Panorama Économique cette semaine. Toujours pas de reprise de travail à la SNCC malgré la signature au week-end dernier du pacte social entre le gouvernement et le banc syndical de cette entreprise. La rencontre de mardi entre le banc syndical et les travailleurs n'a pas donné les résultats escomptés par Kinshasa. Les cheminots conditionnent la reprise de travail à la paye de 2 mois d'arriéré de salaire. Il faut relancer la production agricole à partir des chaufferies, secteurs et territoires de la RDC afin d'assurer le développement intégral et durable en RDC. Mais comment y parvenir? En tout cas, cette question était au centre de la 4e conférence économique de la RDC mardi et mercredi à Kinshasa. Au nombre des recommandations, les conférenciers demandent entre autres au gouvernement de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit. Et puis Panorama Économique fait le point sur le projet compétitivité et développement du secteur privé. Le projet PCDSP est arrivé à terme. Ce projet était géré par le COPIREP pour un financement de 180 millions de dollars de la Banque mondiale sur une période de 10 ans, soit de 2004 à 2014. Et nous recevons dans ce studio de Panorama Économique pour en parler Albert Lieke, il est responsable de la cellule de communication au COPIREP. Monsieur Albert, bienvenue et bonjour sur Radio Capi.
Merci et merci encore. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau.
Devant ce micro, dans ce studio, Nadine Foula et Daniel Tambinzoni pour vous retracer la rétrospective de toute l'actualité économique de la semaine sur votre radio.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour et bonne fin de semaine à toutes et à tous. Le pacte social signé le week-end dernier à Kinshasa entre le gouvernement et la délégation syndicale de la SNCC n'a toujours pas donné le résultat escompté.
Les travailleurs conditionnent cette reprise au paiement de 2 mois d'arriéré des salaires. C'est la réponse qu'ils ont donnée mardi dernier à leurs représentants venus négocier avec le Premier ministre dans la capitale. C'était au cours d'une rencontre de restitution organisée par la délégation syndicale. Retrouvons Nelly Kabiena pour le compte-rendu.
Les discours tenus à Kinshasa ont réuni le Premier ministre du gouvernement, le président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial par intérim du transport, le comité de gestion de la SNCC ainsi que la délégation syndicale. Au terme de 10 jours de négociations, un pacte social de solidarité a été signé, un pacte qui augure les lendemains meilleurs, à en croire la délégation syndicale. Pour les grévistes, la reprise du travail est conditionnée par l'effectivité de la paye de 2 mois de salaire.
Présentement, nous ne sommes pas convaincus. C'est vrai qu'il y a eu des accords. Nous ne connaissons pas les contenus. Nous devons nous imprégner de la réalité qui se trouve dans le document. Qu'est-ce que ça stipule? Nous dit qu'il y a eu signature de pacte social. C'est bien. Quel est ce pacte? Que dit ce pacte? On n'est pas d'accord. Nous, présentement, nous sommes à une phase d'effectivité. C'est-à-dire, plus de promesses pour que les gens rentrent au travail et prestent normalement. Nous devons être payés. C'est une période très cruciale. Pourquoi? Parce que, présentement, tous les parents doivent préparer la rentrée scolaire. Nous sommes au mois de juillet, vers fin.
Signalons qu'entre-temps, la délégation syndicale commence la tournée de sensibilisation de ce pacte dans toutes les régions SNCC. Cette sensibilisation est à charge du gouvernement, renseigne Victor Humba de Lubumbashi, Nelly Kabiena, Radio Okapi.
Si Nelly Kabiena, bon week-end et bon week-end à tous ceux qui écoutent Radio Okapi à Lubumbashi et à travers toute la province du Katanga. C'est le temps de recevoir, de donner maintenant la parole à notre invité, je vous l'annonçais. Il s'appelle Albert Lieke, il est responsable de la cellule de communication au COPIREP. Monsieur Albert, vous avez suivi ce dossier avec nous et monsieur le président de la délégation syndicale de la SNCC avait raison de se réserver de tout mot d'ordre de reprise de travail à Kinshasa quand la presse lui a posé cette question. Il voulait d'abord consulter sa base, présenter le contenu du pacte avant toute déclaration. Et là, il a joué à une prudence.
Je ne sais pas s'il a joué à une prudence, mais j'ai bien suivi l'élément qui vient d'être diffusé. La délégation syndicale a ramené les conclusions du pacte social et inviter le travailleur à la reprise du travail. Mais les travailleurs disent ils veulent avoir des assurances. Les inquiétudes des uns et des autres me paraissent normales. Mais il appartient maintenant à la délégation syndicale de faire son travail, un travail de communication et de pédagogie. lorsque les travailleurs arrêtent de travailler, c'est généralement parce que ça va mal. Mais les travailleurs ne partent tous pas négocier. Ils ont des représentants en qui, en principe, ils devraient avoir confiance. La balle est dans le cadre de la délégation syndicale qui doit démontrer qu'elle a la confiance des travailleurs, expliquer aux travailleurs. J'apprends avec vous qu'il y a une campagne de communication financée par le gouvernement. C'est excellent. Je voudrais seulement faire un tout petit commentaire. Il est personnel. Je ne suis pas le responsable de la communication de la SNCC. Le salaire, il est produit par l'entreprise, mais il est produit par le travail des travailleurs. S'ils ne sont pas à leur poste, il est difficile que l'entreprise fournisse quelque chose. Mais j'ai lu dans la presse que le gouvernement, en tout cas une interview du professeur Ilunga, qui notait que le gouvernement s'était engagé à rajouter un montant de 7 millions de dollars américains dans le cadre de ce pacte social. Donc les biscuits sont là. Maintenant, il appartient à la délégation syndicale.
Peut-être que les travailleurs ne veulent pas se laisser prendre au piège, parce qu'on sait que, d'une manière générale, en RDC, le syndicat ne joue pas tellement son rôle. Il roule souvent du côté de l'employeur. Et là, les travailleurs peut-être sont en train de craindre que leur syndicat joue dans ce sens-là aussi. C'est pourquoi ils sont en train de conditionner la reprise du travail.
Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, j'ai jamais dit que les syndicats jouaient un jeu. Je crois que les syndicats essayent...
Non, pas les syndicats. Les travailleurs sont en train de jouer à ces jeux, parce qu'on sait, on connaît, on est au Congo, on connaît les réalités du Congo. Pour qui joue souvent le syndicat en RDC, on le connaît?
Ce sont encore des affirmations qui sont les vôtres. Moi, je pense que le syndicat est venu à Kine, il a discuté avec les autorités et ils ont conclu un pacte social. Ils ont fait leur boulot, n'est-ce pas? Maintenant, ils doivent faire la deuxième partie du travail. Ils ont réussi à convaincre le gouvernement de leur volonté de reprendre le travail. Si un certain nombre de revendications sont prises en compte, ils ont obtenu un pacte. Maintenant, c'est à eux de convaincre leurs affiliés. Ce sont leurs affiliés. Je pense que c'est un simple travail de communication.
Un simple travail de communication. Le temps pour nous de prendre ce deuxième dossier de la semaine qui est consacré à la 4e conférence économique nationale tenue mardi et mercredi à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été formulées et les conférenciers estiment que leur mise en œuvre pourrait favoriser la relance de la production agricole dans les chefferies, secteurs et territoires de la RDC.
Ils demandent notamment au gouvernement d'assurer la cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des provinces, l'amélioration du système bancaire, de la fourniture en énergie dans les milieux ruraux en vue de la transformation et conservation de produits figurent aussi parmi les recommandations. Pour le participant, une attention particulière doit être accordée aux petites et moyennes entreprises et industries, véritables maillons dans la chaîne de développement. Pour le ministre de l'économie, la conjonction des énergies de toutes les parties après cette conférence permettra à ce que la mise en application des résolutions soit effective. Jean-Paul Nemoyato.
Après cette conférence, il est recommandé que le secteur public, le secteur privé et la société civile travaillent ensemble pour réaliser les actions ci-après. La mise en place des fonds, des garanties pour que les PME accèdent au financement, le renforcement des capacités humaines et matérielles dans les territoires, secteurs et chefferies, la défiscalisation progressive des activités agricoles, la réhabilitation prioritaire des routes de desserte agricoles, l'appui au système de transformation de produits agricoles déjà amorcé par les petites et moyennes entreprises congolaises encadrées par la COPEMECO. La réussite de toutes ces actions nécessite la mise en place de la territoriale de développement, se traduisant par le recrutement, la formation, l'affectation et la motivation des administrateurs de territoire, des agronomes et des moniteurs agricoles compétents dans chaque territoire.
Relancer la production agricole à partir de la base et en tenant compte des spécificités de chaque province. Monsieur Albert Lieke, vous êtes chargé de la communication au sein du COPIREB. C'est un grand organe aussi de l'État. Le COPIREB, il faut le dire, que c'est une structure technique du gouvernement qui est chargée de la réforme des entreprises publiques. Vous avez suivi l'actualité comme nous, comme tout Congolais. Qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous avez retenu de cette 4e conférence économique de la RDC?
Mais ça nous intéresse beaucoup. Je veux vous étonner, ce sujet est vraiment au cœur d'une partie du travail du COPIREP. Souvenez-vous que le COPIREP, à travers le PCDSP qui s'est clôturé, nous en parlerons tout à l'heure
justement,
avait notamment pour mission l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Nous avons besoin d'argent pour relancer plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole. Mais l'argent est frileux. Il n'aime pas là où il n'est pas sécurisé.
Il n'aime pas le bruit.
Ce que nous avons entendu dernièrement, là, je veux prendre un terme du gouvernement, un groupe d'inciviques crée la panique quelque part, l'argent des étrangers peut s'enfuir immédiatement. On se dit, on n'est pas en sécurité. Donc, la relance agricole, ça nous concerne également, non pas parce que nous sommes dans le secteur, mais parce qu'il faut que le climat des affaires et des investissements soit correct, soit apaisé, soit amélioré. Et donc, nous nous sentons fiers de ce qui se dit dans la conférence agricole, parce que cela n'est possible que parce que nous, au COPIREP, nous avons fait une partie de notre travail. Il n'y a pas que nous. D'autres structures s'attachent à l'amélioration du climat des affaires. Hein.
Si on peut retenir quelque chose par rapport à ce que le COPIREP a fait dans ce sens-là, ce serait quoi?
Écoutez les recommandations d'un des participants, on vient d'entendre un élément. Il parle de l'amélioration du système bancaire. Le COPIREP est en train à travailler dans le cadre du PCBSC à la réforme de la Banque centrale, à la mise en place d'un système national de paiement. Cette action-là va se poursuivre puisque le PCBSC...
On a entendu ça à la conférence, oui.
C'est ça. Un autre participant, toujours dans les recommandations, parle de l'accès à l'électricité. Mais le COPIREP travaille à la restructuration de la SNEL. D'autres projets auxquels le COPIREP participe sont en train de faire en sorte que la SNEL ait les moyens d'améliorer la desserte. L'un des problèmes de Kinshasa, par exemple, c'est l'insuffisance d'énergie reçue à Kinshasa sur la ligne de transport Inga-Kinshasa. Il fallait une deuxième ligne. Une deuxième ligne est en train de s'approcher
de Kinshasa.
Et là,
je pense que sans transition, on va aborder le troisième sujet directement pour parler du projet de compétitivité et même déjà, puisque ces deux sujets qui vont ensemble, vous y êtes déjà, puisque ces problèmes-là de l'électricité, les petites et moyennes entreprises ont demandé à ce que le courant électrique arrive dans les villages pour favoriser la transformation, voire même la conservation de produits qui pourrissent faute de bonnes conditions de conservation.
Ne confondons pas les choses. Hein. Ouais. Le COPIREP ne distribue pas l'électricité.
Non. Là, je suis dans le cadre des résolutions de la 4e conférence économique.
Mais ce que je pouvais dire par rapport à cela, c'est quelle pourrait être la contribution du COPIREP dans son travail pour qu'on arrive à ce résultat. Nous parlions tout à l'heure, vous avez dit ne faisons pas de transition, allez dans le PCDSP. Je disais que l'un des axes du PCDSP qu'a géré le COPIREP, c'est la réforme des secteurs, la réforme des entreprises. On parle d'électricité. J'ai reçu dernièrement quelqu'un qui vient du Bandundu et qui me dit que dans la ville de Kikwit, la plupart des personnes sont alimentées par quelques personnes qui ont des grands groupes électrogènes et qui le redistribuent. Ce sont des privés qui font en sorte que leurs compatriotes qui sont autour d'eux, étant donné que la SNEL n'est pas encore tout à fait en mesure de résoudre leurs problèmes dans ce contexte-là, distribuent dans l'électricité. Au Capi, il y a des reporters dans tous les coins de la République. Je pense, vous pourriez me contredire, qu'à Chicapa, c'est un peu aussi la même situation. Ce sont des privés qui distribuent l'électricité. Le COPIREP a travaillé à la libéralisation du secteur de l'électricité, au travers notamment du code de l'électricité. Mais le COPIREP travaille également, le PCDSP a travaillé au travers de plusieurs autres projets pour améliorer non seulement le secteur, mais également les performances opérationnelles de la SNEL. Le travail du COPIREP, c'est de mettre en place, d'asseoir les bases, de réfléchir à la manière dont les choses...
De tracer les jalons.
Merci de me prêter le mot, de tracer les jalons. Mais il y a un travail de gestion au quotidien. Le COPIREP ne se substituera jamais à la SNEL, il n'en a pas les compétences.
En quelque sorte, vous avez parlé de ce qu'a été les projets de compétitivité, de développement du secteur privé, le projet que vous avez et que le COPIREP a dirigé pendant 10 ans, de 2004 à 2014 aujourd'hui. Si on peut retenir en quoi ça consistait ce projet?
Mais je pense que nous l'avons peut-être déjà dit lorsque nous parlions de...
C'est pourquoi je voulais qu'on fasse un petit résumé avant de faire le bilan de ce qu'il a été.
deux axes au projet compétitivité et développement du secteur privé. Deux axes principaux. Le premier axe, c'est l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Le deuxième axe, c'est la réforme des secteurs et des entreprises publiques. Cinq secteurs cibles. Les secteurs des mines, des finances, des télécommunications, des transports et de l'énergie. Pourquoi ces secteurs ont été choisis? C'est parce que ceux qui ont conçu le programme, c'est le gouvernement congolais. On a tendance souvent à dire la Banque mondiale, les étrangers nous imposent des choses.
Oui, c'est ici le temps de préciser que tous les projets qui sont financés sont conçus par le gouvernement.
Le PCDSP est un projet du gouvernement
congolais.
Il bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. L'appui financier, peut-être l'appui en termes de conception et de réflexion également. Nous sommes un pays indépendant.
Vous disiez pourquoi ces secteurs ont été choisis?
Parce que ce sont des secteurs qui ont un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale. Regardez, les gens de la conférence économique parlent d'énergie. J'ai entendu le son que nous avons entendu tout à l'heure qui parlait de transport, de télécommunications, de l'intermédiation financière, le secteur financier. Tous ces secteurs ont un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Bon, le secteur des mines, évidemment, c'est l'une des richesses les plus importantes que nous avons et qui est vraiment porteur de croissance.
Et en termes de bilan maintenant?
En termes de bilan, dans l'axe spécifique de l'amélioration du climat des affaires, le rôle du COPIREP, c'était de contribuer à cette amélioration-là en mettant en place un certain nombre de structures, en corrigeant un certain nombre de choses. Par exemple, notre droit des affaires, il était complètement obsolète. Un grand débat a eu là-dessus. Je veux peut-être vous faire rire un peu. Certaines dispositions de notre droit des sociétés dataient de 1887, pas 1900.
Alors qu'on est au 21e siècle.
1887, c'était le Congo pré-colonial.
Oui.
Pré-colonial.
Oui.
Entre-temps, le monde a beaucoup évolué.
Et le COPIREP a amené des réformes dans ce sens?
Non, le gouvernement, à travers le COPIREP, a eu à mener des réformes, par exemple, en adhérant à l'OADA. Ça nous permet de mettre notre droit à niveau. Et comme c'est une structure régionale, ça nous permet de le crédibiliser.
Et attirer les investisseurs.
Mais ça ne suffit pas. On parlait tout à l'heure de la frilosité de l'argent. Il faut que là où je vais investir, je sois certain que s'il se produit des choses, je suis couvert. Et donc, le PCDSP a également financé l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'ACA, l'Agence pour le commerce et l'assurance en Afrique. Cette structure couvre les risques commerciaux et même les risques non commerciaux. Ça, ce sont deux résultats essentiel.
Dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires.
Et puis, il y a la manière dont il y a toujours quelques litiges lorsqu'on fait des affaires. Hein. Oui. On n'est pas tout à fait d'accord. Un contrat n'a pas été complètement
exécuté à perfection.
Quelqu'un n'a pas payé, ceci, cela. Et lorsqu'on arrive à cette situation-là, on va devant les juridictions. Il est bon que ce soit des juridictions assez spécialisées quand même. Hein. Et donc, les hommes d'affaires aujourd'hui peuvent aller devant les tribunaux de commerce. Il y en a, je crois, 7 qui sont mises en place. Je vais essayer de citer, on verra si on arrive à combien. Il y a le tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, le tribunal de commerce de Kinshasa, Matete, le tribunal de commerce de Lubumbashi, le tribunal de commerce de Matadi, le tribunal de commerce de Kisangani et le dernier à avoir été mis en place, c'est le tribunal de commerce de Mbujimayi.
Opérationnel.
Au niveau du COPIREP, le travail qui a été fait, c'est là où il n'y avait pas de bâtiment, on a demandé au gouvernement de disponibiliser un bâtiment parce que quelqu'un disait dans la presse, on ne va pas revenir à cette polémique-là, qu'on n'a fait que reprendre des bâtiments, qu'on a fini par réhabiliter. C'est vrai, on demandait au gouvernement, là où il n'y a pas de bâtiment, de disponibiliser un bâtiment. Et ce bâtiment-là est complètement réfectionné, il est mis aux normes, il est équipé en électricité, en eau, en climatisation, en ordinateur, tout. De telle sorte que lorsque les occupants arrivent, ils ont tout.
Je ne veux peut-être pas vous couper la parole, monsieur Albert, puisque nous courons derrière le temps. Ça, c'est du côté de l'amélioration du climat des affaires, quelques acquis que vous êtes en train de citer.
Mais permettez-moi de vous couper la parole, parce qu'il y a un élément important sur lequel nous devrions insister.
Okay,
le COPIREP a aidé à la mise en place du cadastre minier et à l'organisation du secteur minier. Je dis à aider, appuyer les administrations provinciales des mines, mis en place un cadastre minier, fait des travaux sur le développement du tiers géodésique méridional de la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un logiciel est en place qui permet de dire tel emplacement a été cédé à telle personne, telle personne a un titre de propriété. C'est un système extrêmement sophistiqué. Il y a des bornes qui sont repérées par satellite qui permettent d'avoir une cartographie.
C'est le travail que le copier-coller fait.
Et ce travail-là, à mon sens, a certainement permis le boom minier que nous connaissons aujourd'hui.
Donc quand même, il n'apporte encore pas grand-chose, parce qu'on le dit.
Non, je vais à la polémique. Ne dites pas qu'il n'apporte pas grand-chose. Écoutez, je vous donne un chiffre. À l'époque de la grande Gécamines, 74, la production minière de la RDC était de 450 000 tonnes.
Oui.
La production minière de
toutes les recettes de cette production revenaient à l'État congolais. Aujourd'hui, on pose la question à la primature. Par exemple, on dit, à l'époque, c'était l'État congolais, propriété de Gécamines. Aujourd'hui, la Gécamines, c'est des mining, c'est de, comment on dit, joint venture, à gauche, à droite. Et toutes les recettes ne savent plus revenir dans la caisse de l'État.
Dépassionnons, voilà. Essayons de réfléchir. Aujourd'hui, notre pays produit 1 million de tonnes.
Justement.
Maintenant, on va aller sur le même terrain. La Gécamines, aujourd'hui, enfin, à l'époque, comptait, je crois, 23 000 travailleurs environ.
On sait tout de même que notre débat, ce n'est pas celui-là de la Gécamines.
Oui, mais vous avez soulevé un point important. Je ne voudrais pas qu'il reste accroché dans la tête de Télé-Suède. C'est vous le coupable, hein, c'est pas moi.
Non, on n'a pas cette capacité. Voilà.
Aujourd'hui, oui. Est-ce que vous savez me dire combien de personnes ont trouvé de l'emploi dans cette province à l'occasion de ce boom minier? Il est largement au-delà de 23 ans.
C'est le copyright peut-être qui le connaît mieux, qui le nous dira. Bon, puisque je dis, je cours derrière le temps. Prenons alors le deuxième volet du travail que c'est le CP. Le CPDSP, hein, c'est ça?
Non, le PCDSP.
Voilà, le deuxième volet, c'était la transformation des entreprises publiques qui devraient devenir des sociétés commerciales, un service public, ainsi de suite. Quel résultat vous êtes arrivé?
D'abord, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les entreprises publiques ne rendaient plus le service pour lequel elles ont été créées, n'est-ce pas?
Justement.
On s'en est rendu compte. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
C'est pour ça, dix ans après aujourd'hui...
Mais non, ne faites pas des raccourcis. Le premier élément... Si vous nous invitez à un débat de fond, dites qu'on va, dans un premier élément, prendre 30 minutes pour la première partie. Nous revenons peut-être samedi prochain pour prendre la deuxième partie. Sinon, nous effleurons des sujets et nous laissons des points d'interrogation dans la tête de nos auditeurs.
Sûrement, je vous le promets alors. Je vous retrouverai peut-être la semaine prochaine sur ce même plateau pour parler un peu à fond, puisque ça intéresse le peuple congolais. Hier, les sociétés publiques, les entreprises publiques n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins pour lesquels elles ont été créées. Et si aujourd'hui, elles ne parviennent toujours pas à répondre à ces besoins, c'est qu'il y a un problème de fond qui doit être abordé. Alors, je vous laisse le temps de parler. S'il faut même terminer l'émission par là, on va la finir par là. Allez-y, transformation des entreprises
publiques. Il nous reste combien de temps en régie, là?
Une dizaine.
Voilà. On a le temps de parler un peu tranquillement.
Justement.
Donc, l'objectif, c'était les entreprises ne rendent plus de services pour lesquels elles ont été créées. Deuxièmement, les entreprises opéraient pour la plupart en situation de quasi-monopole et occupaient des pans entiers de l'économie nationale qui ne pouvaient donc pas être cédés au privé. Rappelez-vous que le gouvernement s'était engagé dans la voie de la libéralisation économique que l'objectif c'est de tirer l'économie par le biais du secteur privé. Si les entreprises publiques occupent tous les pans de l'économie, il n'y a pas de place pour le privé. Deuxièmement, l'état de déliquescence de ces entreprises fait en sorte qu'il faut beaucoup d'argent pour les réhabiliter. Je ne suis pas membre du gouvernement, je suis l'actualité comme vous tous. Je crois comprendre que le gouvernement n'a pas en propre les moyens de faire face aux besoins de toutes les entreprises. Elle peut de temps en temps, comme on le voit pour la SNC, apporter un appui, mais je crois que le credo du gouvernement, c'est de dire les entreprises doivent savoir se prendre en charge elles-mêmes. Et puis un dernier élément, les entreprises n'étaient pas classifiées. On prend une entreprise de secteur marchand, on prend une entreprise qui n'a que des missions de service public, elles sont toutes régies par la même loi et logées à la même enseigne. Il fallait dans un premier temps moderniser le cadre juridique dans lequel ces entreprises évoluent. Ce travail de modernisation a donné lieu aux lois qui ont été édictés, je vais parler de mémoire, lorsque nous discutions sur le canevas de cette émission, nous n'avons pas abordé le sujet, donc je vais parler de mémoire. Les lois ont été votées par le Parlement pour permettre d'abord de moderniser le cadre juridique. le journaliste que vous
êtes. Et le travail a été fini, je crois, au mois de décembre 2009 ou 10.
Ah non, 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 non.
La transformation juridique.
C'est en 2009 que les décrets d'application pour cette transformation ont été pris. Lorsque le décret est pris, juridiquement, le travail peut commencer, n'est-ce pas? On a classifié et il n'est resté dans le giron des entreprises dites commerciales que 20 entreprises. Et ces 20 entreprises-là devaient poursuivre une transformation économique. Il y a eu des préalables à cette transformation économique. Il y en a encore à la date d'aujourd'hui.
Oui, je veux dire, c'est la transformation juridique avec toutes les lois qui ont été votées, promulguées. La transformation juridique était terminée. La branche qui continue, c'est la transformation économique. Et le travail continue jusqu'à aujourd'hui.
Le travail continue jusqu'à aujourd'hui.
Et maintenant que le projet arrive à terme.
Il ne faut pas associer le projet à l'État congolais. Ce n'est pas parce qu'un projet s'arrête que la marche de l'État congolais s'arrête. Nous vous avions invité à la clôture du projet compétitivité et développement du secteur privé. Vous nous aviez fait faux bond, hein? Non, enfin, c'est pas grave.
Quel faux bond.
Eh bien, au cours de cet atelier de clôture, tous les participants se sont accordés à dire que le gouvernement doit chercher les moyens de poursuivre la réforme de ces entreprises. Et chercher les financements. Ça peut être les financements du gouvernement congolais, ça peut être des financements d'autres bailleurs, mais c'est du Congo qu'il s'agit. Et donc, il appartient au Congo d'essayer de faire en sorte que le travail se poursuive. Et au COPIREP, le travail se poursuit. Nous sommes en train de continuer à travailler le plus sérieusement possible pour faire le travail que le gouvernement nous confie.
Pour 20 sociétés commerciales qui doivent définir leur patrimoine, si on n'a pas pu le faire peut-être à 5, 6 ans, comment vous allez y arriver maintenant que vous n'avez plus le moyen financier là?
Mais vous revenez sur les moyens financiers. Je crois que le travail, c'est d'abord le cerveau.
Le cerveau, oui.
Le cerveau et la volonté.
Le cerveau doit précéder. Il faut les finances pour les matérialiser.
Le cerveau et la volonté, il faut des finances, effectivement, mais c'est d'abord le cerveau et la volonté. Peut-être faut-il regarder d'où nous venons. J'aime l'image de l'iceberg. Lorsque vous voyez la pointe de l'iceberg, c'est un dixième de ce qu'il y a sous l'eau. Et vous avez l'impression que rien n'est encore fait. Le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, notamment dans la détermination du patrimoine des entreprises, c'est un travail de gestion quotidienne. Nous avons dans un premier temps aidé les entreprises à déterminer leur capital social. Vous vous souvenez de toutes les difficultés que nous avons eues à l'époque.
C'était des chiffres difficiles à confirmer.
Difficile.
À accepter, oui.
Difficile, effectivement. Et en réalité, ça ne devrait pas être difficile. Parce que dans une entreprise qui est bien gérée, on a les chiffres à jour. On connaît son patrimoine.
Oui.
Et donc, ce travail-là se poursuit. Il doit se poursuivre. Effectivement, il n'est pas facile. Mais si nous voulons terminer la réforme, il faut absolument que nous continuions à faire ce travail avec la participation, notamment la bonne foi, la bonne volonté de ceux qui gèrent ces entreprises.
La transformation économique des entreprises, il y en a une vingtaine. Et aujourd'hui, aucune n'est à mesure de définir son patrimoine.
Non, je pense que pour certaines, c'est terminé. Je parle également de mémoire.
Voilà.
Je crois que pour la GECAMINE, c'est fait.
Oui.
Mais ce n'est pas vrai de dire que ce n'est terminé pour aucune. Je crois que
il faut peut-être poser une question comme celle-là pour soutirer la vérité, pour soutirer une information quelque part peut-être, parce qu'à notre connaissance, on ne sait pas, on ne connaît pas laquelle des entreprises connaît son patrimoine aujourd'hui.
Alors là, je vous retourne tout de suite la balle, hein, cher ami.
Moi, je vous retourne alors cette balle-là, je vous retrouverai sur ce même plateau pour essayer un peu d'en parler, parce que c'est des entreprises congolaises qui concernent les Congolais et on doit vraiment parler pour que chacun ait une idée sur ce qui se fait dans les entreprises qui sont les nôtres.
Absolument. Moi, je suis d'accord pour revenir la semaine prochaine. On va rester sur les entreprises, sur la transformation, sur le travail qui reste à faire. Et comme nous savons à quelle sauce vous souhaitez nous manger, nous allons apprêter les biscuits pour vous dire exactement où on en est, entreprise par entreprise, hein. Mais je vais également profiter de cette tribune pour vous inviter. Vous savez, l'information au COPIREP, elle est absolument transparente. À côté de moi, vous voyez le rapport annuel 2013.
J'ai toujours eu ces...
Quelqu'un avait dit qu'il ne paraît que 2 ans plus tard. Ces documents, tous les documents, tous les projets dont nous parlons ici, vous pouvez les consulter sur le site internet du COPIREP. Ce sont des documents qui sont tombés dans le domaine public.
C'est lequel?
www.copiREP.cd. Visitez-nous, réagissez.
Merci beaucoup, M. Albert Lieke. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans ce numéro de Panorama économique qui n'est pas terminé, mais plutôt suspendu. On reprend ce numéro la semaine prochaine pour parler des entreprises publiques, de la transformation économique des entreprises publiques de la RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de nous avoir invités.
Merci à vous, chers auditeurs. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net. Et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.